comment des sociétés qui ne proposent pas de variables arrivent à recruter, voire à garder des commerciaux chez eux, alors qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est méga tendu et justement, ce type de profil s'arrache à prix d'or. Pour répondre à cette question, j'ai appelé une personne de chez Luca. Luca, qui est une boîte qui est en pleine croissance, qui vient de faire une super levée de fonds. Cette personne-là, ça fait 5 ans qu'elle est dans cette société. Elle est passée de bizdev à directrice commerciale et elle n'a eu aucun variable individuel. Comment elle a fait ? Elle va nous l'expliquer. Mais en soi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, un gars qui sort d'école, qui arrive dans une boîte qui est hyper bien mindée, comme Lucas, on peut dire ce qu'on veut. Lucas, genre, vous êtes hyper bien mindé. Est-ce que, après 2-3 ans chez Lucas, tu vois, où tu as commencé à apprendre des choses, où tu as été performant, tu connais ton métier, où tu commences justement à signer davantage, tu vois, où tu te fais un réseau au sein des DRH et où tu maîtrises la verbatim et tu as le réseau. Donc, potentiellement, tu as quand même beaucoup d'outils qui te permettent d'aller closer facilement. Lorsque tu as un recruteur qui débarque pour dire « Hello Coco, en fait, tu es à combien ? Tu es à 50, 60. Moi, je te mets 10K en plus et les gars peuvent les mettre plus un variable derrière pour pouvoir l'inciter à faire. » Est-ce que justement, ce n'est pas à ce moment-là que ça peut devenir dangereux pour la rétention justement des candidats ?
Alors, moi, je vais te parler justement un petit peu de rétention et je vais te donner des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2022, le taux de turnover dans mon équipe sales, il était de 7%.
C'est correct, c'est plus que correct.
C'est plus que correct, c'est même faible. La moyenne de l'INSEE en 2021, c'est 15% dans la tech. Donc effectivement, on a un très bon taux. Un élément sur lequel j'aimerais revenir,
bien sûr,
c'est là, en fait, donc dans tout notre discours, souvent on entend que le variable individuel, c'est un bon levier de motivation. Et ça, en fait, c'est faux. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé.
Dis-moi pourquoi.
En fait, on part du principe que la carotte et le bâton, c'est des choses qui fonctionnent. Alors, c'est des choses qui ont fonctionné, ça c'est vrai, notamment dans l'industrie, au XXe siècle. Quand tu as des tâches qui sont très routinières, c'est vrai que mettre en place un variable, ça peut aider à la performance. Mais pourquoi est-ce qu'on continue ? Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne, et j'irai même plus loin, tout prouve qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a un prof de psychologie dans les années 50 qui s'appelle Arlo, qui a mis en avant une nouvelle forme de motivation, la motivation intrinsèque, qui est celui du plaisir de la réussite, qui est hyper importante, qui est hyper important. Alors, déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément bien entendu, je te laisse imaginer à l'époque comment ça a pu être reçu, donc il a mis de côté ses recherches. Ces recherches, elles ont été reprises dans les années 70 par un mec qui s'appelle Deci, qui a fait une thèse sur ce sujet. Et Deci, il écrit noir sur blanc dans sa thèse, et ça a été prouvé par des expériences, que quand tu mets en place un variable, eh ben, l'individu, il est moins motivé pour finaliser sa tâche. Alors, autant te dire que sa thèse a été très controversée. Il a même été viré d'une école de commerce à cause de ça. Mais aujourd'hui, il y a plein d'études et il y a plein de recherches qui montrent que, en fait, quand tu mets en place un variable, même pire, en fait, si tu veux, ça peut chasser la motivation intrinsèque de l'individu à performer et à réussir dans sa tâche. Donc, en fait, c'est hyper pervers. L'autre point aussi, c'est que quand on pense qu'une rémunération variable, ça peut motiver quelqu'un, en fait, c'est partir du principe que l'individu, il est super rationnel. Or, c'est pas vrai, on n'est pas rationnel, tu vois. On doit faire des économies, on n'en fait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe.
On n'est pas encore à la fin du mois.
un exemple que j'aime bien citer, tu vois, on va faire un petit saut dans le temps, en 95. En 95, il y a Microsoft qui lance une encyclopédie, qui paye les meilleurs chercheurs, les meilleurs universitaires pour rédiger des super articles. L'encyclopédie, elle est commercialisée sur CD-ROM, ensuite elle est commercialisée en ligne.
Universalis.
Autant te dire que le truc est censé être un succès incroyable. 6 ans plus tard, 2001, Wikipédia est lancée. Bon, la conclusion c'est quoi ? C'est qu'en 2009, l'encyclopédie de Microsoft, c'est un échec total, alors que Wikipédia, qui fonctionne uniquement avec le travail de bénévoles, eh ben, c'est un succès. Aujourd'hui, c'est 60 millions d'articles, c'est traduit dans plus de 300 langues. Et pourquoi est-ce que les mecs ils continuent à bosser gratuitement pour Wikipédia ? C'est le plaisir de la réussite, en fait. Donc, garder une rémunération variable, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. On fait ça uniquement par tradition et par mimétisme. Mais en termes de performance, vraiment, c'est une hérésie. Et c'est prouvé scientifiquement.
Ok. Non, mais c'est smart. Mais par contre, on est d'accord qu'il reste une motivation financière, même si elle est collective. En fait, vous avez créé un système qui permet, si je comprends bien, hein, qui permet en fait à chaque sales d'aller prendre ce qu'il souhaite, de trouver son équilibre finalement.
C'est exactement ça.
D'accord.
En fait, on va activer tous les leviers de motivation possibles et on va travailler avec chaque collaborateur pour voir quels sont les leviers les plus importants pour lui. Telle personne, c'est le fait d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Très bien. L'autre personne, ça va être la rémunération. Eh bien, c'est possible. On a des personnes qui sont motivées par la rémunération. Voilà, donc en fait, on va activer tous les autres leviers de motivation et on va travailler avec eux pour identifier les leviers les plus importants. Ça peut être le feedback, ça peut être la rémunération, oui, mais très souvent, la rémunération, c'est pas le seul levier de motivation. Et en particulier chez Lucas, nous, en tout cas, quand on fait ces exercices de Moving Motivators, c'est pas le premier levier de motivation. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui sont plus importants. Et c'est sur cela qu'on va travailler. Par contre, effectivement, si tu sous-payes tous tes collaborateurs et qu'en plus, tu as une ambiance un peu pourrie...
Ok, et donc du coup... Est-ce que tu penses que ce niveau de responsabilité-là, finalement, leur permet de rester dans l'entreprise et leur permet de répondre par la négative à des concurrents ou n'importe quelle autre boîte qui peut les chasser en disant bah, concrètement, tu as combien ? Tu as 40 ? Moi, je te fais faire un gap de 50 plus bah, 50. On sait que genre, c'est un marché qui est méga tendu et qu'aujourd'hui, pour avoir certains types de profils qui sont méga rares, il y a beaucoup de boîtes qui sont prêtes à mettre énormément d'argent. Est-ce que tu penses justement que ces profils sales, il y a un moment où ils peuvent douter et se dire « Ouais, mais attends, c'est bien beau d'avoir des responsabilités, c'est bien beau d'avoir justement de l'engagement dans une boîte, mais au final, j'ai de l'engagement dans une boîte me paye un salaire fixe et sur lequel j'ai potentiellement pas de BSPCE, si je ne m'abuse, ou j'ai pas de part dans cette boîte-là. » Tu vois, donc pourquoi je n'irai pas ailleurs pour prendre plus d'argent ?
Lucas propose de l'actionnariat salarié, mais avant de t'expliquer et avant de te présenter ce qu'on a pu mettre en place pour compenser notamment l'absence de variables individuelles, je vais revenir sur les différentes conditions qui sont nécessaires. J'ai parlé donc d'épanouissement, la possibilité de se projeter, mais évidemment, il reste aussi le salaire. Pour moi, une des conditions pour passer à une absence de variable, c'est aussi que le salaire fixe qui soit proposé soit à minima au marché, voire un petit peu au-dessus. Que les meilleurs éléments soient valorisés, ça aussi, c'est très important. Nous, on a un système de fast-track qui est proposé. On a aussi un système de grille qui est public en interne avec un système de grade vertical et de paliers horizontaux. Et donc, en fait, les collaborateurs peuvent aussi se projeter d'un point de vue salarial. Ils savent combien est-ce qu'ils seront payés si jamais ils progressent et ils évoluent, par exemple, sur une qualification de confirmé. Ces qualifications, elles doivent être revues régulièrement. Nous, on a des revues comme ça qui sont biannuelles. Et une dernière chose, c'est pas obligatoire, mais je pense que ça aide, c'est la transparence des salaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en place chez Lucas. Et le fait que les salaires soient transparents, bon, déjà, pourquoi cacher les salaires si jamais il y a une grille qui est publique ? Mais bon, le fait qu'ils soient transparents, ça rassure aussi les collaborateurs sur le fait qu'effectivement, la grille est bien appliquée, elle est juste et équitable.
Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearesales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We Are Sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.